allons le rejoindre. On lui parle pas assez souvent. On l'aime tellement. Jean-Luc Grandpierre est avec nous. Comment ça va, Jean-Luc?
Comment ça va, cousin?
Salut les gars, ça va bien, vous?
Ben ouais, ça va bien, bien, Jean-Luc.
Là, Jean-Luc, fallait te parler parce que qu'est-ce qui se passe avec ton équipe? Vous avez pas de goaler. Vous êtes en série. Comment vous faites?
Ben là, en ce moment, on n'est pas en série. On est dans, comme on dit, dans la chasse, Georges. Mais oui, écoute, c'est y a plusieurs éléments qui amènent du succès au Blue Jacket jusqu'à présent cette saison. Ce qui m'impressionne le plus, c'est dernièrement, avec le paquet de blessures dont l'équipe a subi, d'être capable de continuer avec ce rythme-là. Mais sérieusement, écoute, la confiance, vous l'avez vu à Montréal, ça peut faire de la magie dans un club. Et puis, si le message de l'entraîneur fonctionne et que l'entraîneur est bien reçu dans la chambre entre les joueurs, ça donne encore plus de jeu à une équipe. Puis c'est ça ce qui se passe à Columbus cette année, qu'on parle de Monahan quand il était dans le line-up, Sillinger. C'est comme une année où tu t'attendais au pire, puis c'est le mieux de tout le monde qui s'est passé à la place. Alors, ça a été vraiment fantastique de voir jusqu'à présent. Et puis, on va attendre de voir un autre 30 matchs et voir qu'est-ce qui se passe.
Tu sais, je me rappelle, on se parlait au début de la saison, puis on avait parlé de l'adrénaline. T'sais, on disait, l'adrénaline et tout le reste, à un moment donné, ça va s'estomper. Ça s'est pas estompé, et là, tu as parlé de la blessure à Monahan. Quand la blessure à Monahan est arrivée, on s'est dit, bon, ben là, ils vont casser, c'est sûr. Là, tu sais, ça casse pas. Marchenko, Voronkov joue avec Fantilli. Puis l'affaire là-dedans, c'est que vous avez des jeunes. Tu sais, Ken Johnson, Cole Sillinger, Adam Fantilli, même Luca Del Bilbao, ce que vous avez rappelé, qui a un bon rôle depuis qu'il est revenu. Je veux dire, est-ce que ça te surprend de voir que les jeunes répondent à l'appel malgré la blessure de cette pièce clé qui est Sean Monahan?
Est-ce que ça me surprend? Oui et non. Non, parce que, écoute, sérieusement, moi, je vois Kirill Marchenko jouer, je l'ai vu jouer 50 matchs cette saison. Puis je peux vous dire que oui, c'était un bon joueur. Écoutez, sa première saison avec les Blue Jackets, je pense qu'il a compté 21 buts, 4 passes. C'était, on riait, puis on dit, lui, il s'en va pour le Cy Young cette année avec une fiche de 21-4. Puis là, l'année passée, il comptait pas, mais il faisait juste des passes. Mais cette année, on a comme une bonne balance entre but et passe, mais ce qui m'impressionne le plus avec lui en ce moment, c'est, puis je regarde beaucoup de matchs autour de la Ligue, c'est tranquillement, pas vite, il commence à devenir un des meilleurs ailiers défensifs de la Ligue nationale également. Parce que je le regarde dans des batailles à un contre un dans le coin, il sort tout le temps avec la rondelle. Je le regarde en échec à l'arrière, puis c'est vraiment impressionnant. Puis tu sais, je sais que les plus et moins, ça veut pas dire autant que dans le temps, là, mais tu sais, la dernière fois que j'ai regardé, il était meneur dans les plus et moins dans toute la Ligue. Avec les Blue Jackets, Kirill Marchenko. Ouais. Fait que c'est juste pour vous montrer le niveau dont il travaille tellement fort. Non, c'est pas un gars qui est très physique, mais si ça brasse, il a pas peur de rentrer dans le tas. Mais c'est vraiment qu'il y a, comme on dit en anglais, il y a round et up, sa game de tous les aspects, que ce soit compter, faire des passes, avantages numériques. La seule chose qui me fait peur en ce moment, c'est le désavantage numérique. Alors, pour lui, ça va très bien. Alors, que Monahan soit là ou pas, ça fait pas vraiment une grosse différence défensivement dans leur zone. Mais tu peux voir, dans le cercle des mises en jeu, c'est là qu'on monte nos centres numéro 1 et 2, parce qu'en ce moment, Sillinger a manqué un paquet de matchs, Monahan. Puis l'autre chose dont Dean Evason a fait très bien, c'est que on rappelle des joueurs pour les remettre dans un rôle où ils sont habitués à le jouer. Parce que souvent, on voit ça dans la Ligue nationale, tu sais, admettons, on ramène à Montréal Joshua Roy, puis on le met sur une quatrième ligne. Mais tu sais, Joshua Roy, c'est pas un joueur de quatrième ligne, tu sais. Fait que ce qui est arrivé ici, on dit Monahan est parti, on va monter Fantilli, on appelle Luca Del Bello, des mineurs, puis on le met dans un rôle de deuxième ligne immédiatement. Comme ça, il joue avec des joueurs, le même style dont il joue à Cleveland, au lieu de le mettre sur la quatrième ligne comme un grinder quand c'est pas vraiment sa game. Alors, je crois que c'est vraiment un beau travail, non seulement par l'équipe, mais également à la direction, de rappeler les joueurs et les mettre dans un rôle où ils sont confortables.
Là, Jean-Luc, parle-nous de l'impact que les propos de Laine a eu envers votre équipe. Comment ça vous a fouetté? On a vu comment Wierenski a répondu. On a vu comment la ville, les partisans ont détesté ça. Vous avez même cancellé une vidéo qui allait être honorée dans ce match-là.
C'est vrai.
À quel point ça l'a motivé l'équipe? Parce que depuis qu'il a dit ça, c'est là que vous avez commencé à gagner.
Ça a été une grosse motivation, il n'y a aucun doute avec ça. Écoute, l'équipe allait bien, mais ce match-là contre Montréal, c'était un des matchs où... Écoute, tu sais, Patrick Laine, la façon dont il a été traité ici à Columbus, que ce soit par l'organisation, par les fans, pendant que ça allait pas bien pour lui, puis qu'il est allé dans le programme pour son aide mentale, qui est très importante. On a ramassé de l'argent pour lui dans l'organisation, dans la ville. Ses commentaires n'ont pas bien passé du tout dans la chambre, et puis on l'a vu immédiatement. Fait que ça, est-ce que ça donne de la frustration? Oui. Écoute, moi j'ai parlé à Dean Evason, puis il me l'a dit, écoute, j'ai rien dit au gars. Il dit, tu parles d'un match où j'avais pas besoin de motiver mon équipe. Écoute, Patrick Laine l'a fait pour nous. Fait que mon point de vue, c'est si j'étais dans le vestiaire canadien, j'aurais pas été content de voir un de mes coéquipiers aller blaster l'équipe dont il jouait l'année passée avant un match. Après un match, tu peux le faire, au moins c'est fini, on s'en va, on a nos deux points ou pas. Mais avant un match, donne ce qu'on appelle du poster material à l'autre équipe avant que le match soit même commencé. Puis, écoute, la réaction de la foule, est-ce que ça m'a surpris? Absolument pas. Et puis, j'imagine que Patrick Laine s'attendait à la même réponse parce que le retour dont il allait, l'hommage dont il allait avoir des spectateurs aurait été incroyable. Et puis, à la place, ça a été tout. Puis, on a entendu les bou-bou-bou à chaque fois que tu la rondelle.
OK, Jean-Luc, chaque fois qu'on prononce son nom, le monde se met à rêver à Montréal. J'imagine qu'on t'en parle beaucoup. Mathieu Olivier, c'est un gars qui fait rêver les partisans du Canadien de Montréal. Toi qui es à Columbus, parle-nous à quel point ce gars-là est rendu important pour le club, puis est-ce que tu es confiant de le voir re-signer à Columbus?
Écoute, je vais vous dire, oubliez Mathieu Olivier. On ne sait jamais ce qui peut se passer, mais Mathieu Olivier ne s'en va pas nulle part. Don Waddell l'a dit à plusieurs fois. Je suis sûr que le camp de Mathieu Olivier et Mathieu Olivier se parlent Don Waddell se parle dernièrement, il n'y a aucun doute avec ça. Mathieu Olivier est très apprécié, non seulement sur la glace par les spectateurs, mais également par l'équipe. C'est pas seulement le côté physique, oui, il est là, il n'y a aucun doute, mais tu regardes, Mathieu Olivier joue je pense en moyenne, c'est 14 minutes 15 secondes par match. Mais tu sais, les trois dernières minutes du match, quand on a un but d'avance, Mathieu Olivier sur la glace. Des fois, on le voit même à 3-3. Dean Evason a tellement confiance dans son jeu, non seulement physique, mais plus important, défensif, que c'est rendu un joueur clé sur la glace, et évidemment dans la chambre avec son leadership. Alors, je crois que Don Waddell va tout faire pour le signer. Puis, moi, je me dis... Mathieu Olivier veut être à Columbus. Columbus veut que Mathieu Olivier soit un Blue Jacket pour longtemps. Alors, on va trouver moyen de faire arranger ça. Alors, je dirais... écoute, il y a 31 autres équipes qui veulent Mathieu Olivier dans leur équipe, probablement aujourd'hui. On espère bien que ça va continuer à Columbus.
Là, Jean-Luc, il faut que tu me parles de Patrick Laine. Puis, je sais que tu nous avais déjà parlé de lui avant, mais là, il est beaucoup question dernièrement, puis on en a parlé hier, puis ça fait réagir énormément de son jeu à 5 contre 5. En avantage numérique, il a son lancé, tout en avantage numérique. Oui, il a son utilité, mais à 5 contre 5, on ne voit pas assez d'implication de son côté. Est-ce que tu es surpris d'entendre ça? Qu'est-ce que tu peux me dire de son jeu 5 contre 5? Parce que toi, tu l'as vu beaucoup plus longtemps que les 15 matchs qu'il a joué avec le tricolore.
Ah, écoute, moi, quand j'entends les commentaires des gens sur son jeu 5 contre 5, je ris puis je me dis, est-ce qu'on a personne n'a vu Patrick Laine jouer depuis le début de sa carrière?
Exact. C'est pas une surprise, là.
C'est pas une surprise pour moi du tout. Écoute, Patrick Laine, un de ses plus gros défauts, évidemment, son plus bel atout, c'est son lancer. Il n'y a aucun doute avec ça. C'est incroyable. Mais ça, un de ses plus gros défauts, c'est pas un patineur extraordinaire. Quand il patine, comme on dit, c'est un gars qui, on dirait qu'il fait du ski plus que d'autres choses sur la glace. Point de vue d'être capable de vraiment bouger. Et puis, la plus grosse lacune de Patrick Laine, c'est ses entrées de zone. Le nombre de revirements de rondelles qui se passent avec Patrick Laine en zone centrale ou à l'entrée, à la ligne bleue de l'adversaire, qui évidemment, ça rend les entraîneurs complètement fous. Patrick Laine doit être un des premiers dans la ligue parce que, écoutez, on se souvient au match hors concours contre Toronto quand il s'est fait blesser. au genou. Il est rentré avec le fameux toe drag. Ce toe drag-là, je t'ai parlé, genre, cet été, puis j'ai dit, prépare-toi pour le toe drag. Il va l'essayer 40 fois. Ça fonctionne une fois sur 40, puis tout le monde capote. Mais en tant qu'entraîneur, c'est un cauchemar à voir. Alors, si on regarde Patrick Laine à 5 contre 5, c'est un joueur qui ne devrait pas être en charge de la rondelle quand c'est le temps de rentrer dans la zone, parce que souvent, ça cause des revirements, malheureusement. Et puis, j'imagine que c'est ce que vous voyez en ce moment à Montréal. Alors, en avantage numérique, c'est toute une arme. Mais pour moi, Patrick Laine, si je veux le comparer à un joueur de football, c'est comme un joueur d'unité spéciale qui serait l'avantage numérique. Et c'est tout à 5 contre 5. À 5 contre 5, il faut le mettre avec deux joueurs qui sont extrêmement responsables défensivement.
Ouais, c'est ça. Il ne se transformera pas là, tout d'un coup parce qu'il débarque à Montréal. Puis il y a aussi la blessure à travers tout ça. Donc, allons-y un pas à la fois pour ce qui est de Laine. Jean-Luc, la perte de Goulet, on en a parlé pour le Canadien de Montréal. On a parlé de la perte de Monahan, à quel point les Blue Jackets de Columbus, ça peut être un exemple pour le Canadien de Montréal. On a perdu Monahan, mais on continue. À quel point, à ton avis, ça va affecter l'équipe? Puis est-ce que pour toi, ça élimine l'espoir des séries éliminatoires, la perte de Goulet?
Je dirais pas que ça va éliminer l'espoir du Canadien de rentrer en série nécessairement, parce que écoutez, Caden Goulet est un défenseur extrêmement important dans l'organisation du Canadien. Je sais que oui, on parle des points de Madison, on parle des points de Hudson, puis c'est le genre de joueurs qui vont nous faire se lever quand on va au Centre Bell pour voir les matchs, mais un gars comme Caden Goulet, tu te rends pas compte comment tu vas t'en ennuyer jusqu'à temps qu'il soit pas dans ton alignement. Et c'est malheureusement pour le Canadien, on va se rendre compte. Écoutez, les joueurs, les entraîneurs savent comment ils sont importants, mais en tant que partisan, tu sais, c'est Caden Goulet, c'est un joueur, un défenseur, mais un vrai défenseur qui joue à la défense, c'est sa priorité numéro un, et c'est tout un atout pour l'équipe. Alors, est-ce que ça va faire un gros trou dans l'alignement? Évidemment, surtout quand on est sur la route et puis on est... Quand t'as une bonne balance entre ta première paire, deuxième paire, troisième paire, c'est bien. Mais quand t'as peur en tant qu'entraîneur d'exposer une paire de défenseurs contre une ligne de l'autre équipe, c'est très dur, surtout quand on est sur la route. Alors, évidemment, un gros trou qu'on parle de désavantage numérique, les dernières minutes d'un match à 5 contre 5. C'est un joueur qui est probablement le défenseur numéro 1 à Montréal en ce moment. Et puis là, tu l'enlèves de l'alignement, évidemment, on va s'en ennuyer. Alors, est-ce que ça va coûter une place en série? Rentrer en série, ça va être assez difficile, on va pas se mentir, malgré le fait que dans l'Atlantique, c'est plus facile que dans la métropolitaine. Parce que je regardais ça aujourd'hui, les gars, l'équipe qui est en troisième place dans la métropolitaine en ce moment serait en première place. Ah, écoutez, non, excusez-moi. L'équipe qui est en première place dans l'Atlantique en ce moment ne serait même pas dans le top 3 dans la métropolitaine. Il y a personne qui veut venir ça cette année, alors... L'Atlantique va être un petit peu plus facile que la métro.
Qu'est-ce que tu as pensé de la transaction Rantanen vers les Kings?
Ben, je suis quasiment tombé de ma chaise, je vais être honnête, parce que je pense qu'on a joué contre la Caroline la veille. Puis écoutez, tout le monde était dans l'alignement. Il y avait Nature était là, et puis Drury était là. Alors, il n'y a personne qui savait vraiment qu'est-ce qui allait se passer. Et puis, le lendemain, je me suis levé, j'ai vu l'échange, j'en revenais pas. Alors, écoutez, du côté de Colorado, Chris McFarland, c'est un gars très intelligent qui était avec l'organisation des Blue Jackets quand j'étais là. C'est un gars qui, évidemment, a voulu payer Rantanen en tant que le meilleur ailier, pas nécessairement un des top joueurs d'attaque, période. Et je crois que Rantanen pensait que sa valeur était plus haute. Alors, on verra ce qui va se passer cet été. Évidemment, avec le cap salarial qui va monter, mais je crois que toute la Ligue, même beaucoup d'exécutifs, ont été très surpris de voir l'échange se passer aussi loin de la date limite des transactions. Et même les joueurs étaient surpris. On l'a vu des deux côtés, incluant Nate McKinnon au Colorado. Alors, ça a été une surprise partout autour de la Ligue. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est que personne n'a vu venir ça. Parce que souvent, aujourd'hui, on voit beaucoup de gens, que ce soit Pierre Lebrun ou que ce soit Chris Johnston ou Elliot Friedman, dire, on entend du bruit, que ça se peut que ça arrive. Ça, c'est arrivé de nulle part.
Exact.
Ah, pas à peu près. Et là, l'effet domino, puis eux, on entendait déjà leur nom avant Rantanen, puis ils sont encore à Vancouver. C'est JT Miller puis Elias Pettersson. Qu'est-ce qui va arriver avec cette situation-là? Rutherford en a parlé, on demande les commentaires à Miller. Là, on sent que ça approche. Est-ce qu'ils vont partir? Et surtout, pour toi, qui va partir entre les deux?
Moi, je crois que ça va être JT Miller qui va partir en premier. Premièrement, oui, Elias Pettersson, c'est tout un joueur de hockey, mais écoutez, le contrat est beaucoup plus long. Le contrat est beaucoup plus cher. Et puis, l'autre chose, il est plus jeune également. Du côté de JT Miller, c'est un joueur qui est un petit peu plus âgé. Le contrat est plus bas, un contrat plus facile à échanger. Et puis, même si les deux avaient le même contrat, je pense que la plupart des équipes voudraient probablement prendre JT Miller simplement parce que c'est un... Je veux pas dire que c'est un gagnant nécessairement, mais son attitude, c'est un gars qui peut vraiment brasser une chambre et mettre l'équipe sur son dos plus qu'un gars comme Pettersson. Alors, pour moi, je crois que, écoutez, il n'y a aucun doute, un des deux doit partir, il n'y a aucun doute avec ça, mais je crois que Miller va être celui qui va partir de Vancouver. Probablement aller dans un marché un petit peu plus, silencieux. Je le vois pas passer de Vancouver à un marché comme Toronto nécessairement, mais j'ai l'impression que, personnellement, si je suis propriétaire de l'équipe, j'échangerais probablement Pettersson si je peux me débarrasser du contrat. Mais je crois que c'est JT Miller qui va partir simplement parce que je crois que la demande va être un petit peu plus haute pour JT Miller que pour Pettersson. Vous, qu'est-ce que vous pensez?
On l'a dit hier, on a dit JT Miller aussi, Big.
Je pense que JT va partir. Ouais, on va garder Pettersson puis probablement Quinn Hughes pour le noyau. On verra. Ouais. Peut-être les deux vont partir. Jean-Luc, merci beaucoup d'avoir pris le temps. On continue à suivre tes Blue Jackets. Bonne chance ce soir contre les Golden Knights.
Puis bon vol. Je sais que tu vas à l'aéroport. Bon vol, Big.
Ah, merci, les gars. Puis bonne chance à vous également. Puis on se repart bientôt.
Très bientôt. Salut, Jean-Luc. Jean-Luc Grandpierre qui est avec nous.